Bon réveil à l'écoute de France Inter, il est 7h. Mardi 9 juillet 2019, bonjour à tous et bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, l'heure du jugement pour Bernard Tapie, poursuivi pour escroquerie. C'est l'affaire de l'arbitrage frauduleux Adidas Crédit Lyonnais. Une peine de 5 ans de prison ferme a été requise contre lui. Bernard Tapie, malade, qui sera sans doute absent à l'audience. Les autres titres, Agnès.
Les euros de rattrapage s'achèvent aujourd'hui, mais pas la polémique sur cette édition du BAC 2019. Paris envoie un émissaire à Téhéran pour œuvrer à une désescalade en pleine crise sur le nucléaire iranien, un bracelet pour retrouver les petits fugueurs des plages et le fugueur du Tour de France. Julian Alaphilippe a quitté le peloton à 16 km d'Épernay. Hier, résultat, une victoire d'étape et en maillot jaune.
Les invités de France Inter ce matin, 7h50, les deux coprésidents de la Convention citoyenne pour la transition écologique. J'ai nommé Laurence Tubiana et Thierry Pêche. À 8h20, le grand entretien de la matinale avec l'économiste Daniel Cohen, l'arrivée de Christine Lagarde à la BCE, les traités commerciaux. Y a-t-il vraiment eu acte 2 du quinquennat Macron? Vos questions dès maintenant au standard 01 45 24 7000.
France Inter. 26 ans d'imbroglio judiciaire autour d'une affaire hors norme mêlant sport, finance, politique et justice. 26 ans depuis la revente d'Adidas par Bernard Tapie via le Crédit Lyonnais. S'estimant floué, l'homme d'affaires a obtenu il y a 10 ans une victoire éclatante grâce à un arbitrage lui octroyant 403 millions d'euros. Depuis, la justice civile a annulé l'arbitrage. Bernard Tapie a été condamné à rembourser les sommes perçues, ce qu'il a commencé à faire, mais la procédure est toujours en cours. Et puis en mars dernier, les protagonistes de cet arbitrage ont été jugés pour escroquerie et détournement de fonds publics. Le jugement est attendu aujourd'hui, Charlotte Piré, mais Bernard Tapie, malade, ne sera-ce pas là.
5 ans de prison ferme ont été requis contre l'homme d'affaires qui s'est dit acteur de profession à l'audience et que l'on a vu, certes, affaibli par les 2 cancers qui le rongent, mais très présent durant les 4 semaines de procès. Se lançant dans de longs développements, je suis tellement content de vous expliquer, lâche-t-il un jour au bout d'une heure à la barre, n'hésitant pas à prendre le public à témoin, qui sont les voyous, qui sont les escrocs, allant même jusqu'à invectiver les avocats de partie civile à l'issue du réquisitoire. Ça va, vous allez passer une bonne soirée? Moi, je vais aller 5 ans en prison. Mais Bernard Tapie ne sera pas là pour la lecture de son jugement ce matin. Son état de santé se serait très nettement dégradé. Lui qui s'est efforcé jusqu'au bout de clamer son innocence, contestant les accusations d'escroquerie et de détournement de fonds publics, niant avoir volé le contribuable. Lui, que le parquet considère en revanche comme co-organisateur et principal bénéficiaire d'une fraude d'une singularité particulière, prêt à tout après la mésaventure Adidas. Bernard Tapie qui encourt donc une peine de prison ferme, mais qui, du fait de sa maladie, ne sera certainement jamais mise à exécution, selon les mots mêmes du procureur.
Et 3 ans de prison, dont 1 an et demi avec sursis, ont par ailleurs été requis contre Stéphane Richard, à l'époque directeur de cabinet de Christine Lagarde, aujourd'hui PDG d'Orange. Le jugement est attendu tout à l'heure à 10h. L'épilogue d'un bac 2019 décidément très chaotique. Toutes les copies ont été rendues hier soir et toutes les notes saisies. Les oraux de rattrapage s'achèvent donc aujourd'hui et tous les candidats seront ce soir fixés sur leur sort. Mais la polémique continue après le recours au contrôle continu voulu par Jean-Michel Blanquer pour pallier dans un premier temps l'absence de notes. Une méthode qui a encore suscité de vifs débats lors des jurys de délibération qui se sont tenus hier. Reportage dans un lycée parisien signé Alexis Morel.
Pour la 2e fois en 4 jours, Joséphine, prof de maths, a claqué la porte d'un jury de délibération hier. Dans son lycée, toutes les copies manquantes ont été rendues hier matin. La consigne était donc de comparer notes de l'année et notes du bac et de retenir la meilleure des deux pour les candidats concernés. Mais Joséphine n'a pas voulu cautionner, dit-elle, une différence de traitement entre élèves.
53 élèves dans notre jury ont eu une meilleure note au contrôle continu qu'à la note d'examen final et verront donc leur note de contrôle continu rester en place de leur note d'examen. Ce qui ne nous pose pas de problème pour ces élèves-là, mais pour les autres qui n'ont pas eu droit à la possibilité de voir leur note de contrôle continu gardée en place de la note d'examen.
Deux poids, deux mesures, une impression ressentie aussi par ces lycéens parisiens qui s'estiment lésés.
C'est un peu injuste. Moi, si on m'avait mis la moyenne de l'année, ça aurait permis que j'ai mention très bien et pas mention bien.
Ouais, j'étais corrigé dans les règles de l'art, mais bon, franchement, j'aurais préféré, justement, pour certains trucs, ne pas être corrigé. J'aurais aimé être jugé sur la moyenne de l'année, quoi.
Et face au risque de recours de la part de certaines familles, le ministère de l'Éducation répond qu'aucun candidat n'est lésé et que si la solution trouvée n'est pas parfaite, elle est juridiquement solide.
Et leur grand oral à eux, c'est cet après-midi. Les trois candidats à l'investiture de La République En Marche pour les municipales à Paris vont se succéder devant la Commission nationale d'investiture. 14h, Hugues Granson. 15h30, Benjamin Griveaux. 17h, Cédric Villani. Verdict attendu en principe demain soir. Et puis à Lyon, Emmanuel Macron propose un dîner à trois dans les prochains jours pour inciter Gérard Collomb et David Kimmelfeld à travailler ensemble. Les salariés de Canal+ devraient en savoir un peu plus aujourd'hui sur leur avenir. La direction doit présenter au syndicat les détails d'un plan de départ volontaire. 500 CDI seraient supprimés selon le site d'information Les Jours, soit près de 20% des effectifs. Après le succès fulgurant des années 80-90. Comment en est-on arrivé là? Élément de réponse avec Alexandra Hakoun.
Sur la fiction, Canal+ a eu beau continuer à investir dans le cinéma et les séries à hauteur de 3 milliards d'euros par an, elle a été incapable d'enrayer la montée en puissance des plateformes de streaming type Netflix, une concurrence capable de mettre l'équivalent de 13 milliards d'euros par an dans les contenus. Et ça ne devrait pas aller en s'arrangeant puisque Disney, Apple et Warner doivent lancer leur propre plateforme dans l'année qui vient. Sur le sport aussi, Canal+ a perdu du terrain, particulièrement sur le foot, premier motif d'abonnement à Canal pendant longtemps. SFR a décroché la Champions League, le groupe espagnol Mediapro lui a chippé les droits de la Ligue 1 pour la période 2020-2024. Résultat, même si Canal+ a déjà économisé 450 millions d'euros grâce à son dernier plan d'économie, elle va devoir faire encore plus pour rester dans la course. 300 000 abonnés individuels directs, les plus rémunérateurs, se sont envolés cette année. Ils sont désormais 4,7 millions, alors que Netflix vient de franchir le cap des 5 millions d'abonnés en France. Tout un symbole.
Téléphoner en conduisant pourrait vous coûter votre permis de conduire. C'est un article de la loi mobilité passé inaperçu qui prévoit de sanctionner plus lourdement les automobilistes accros à leur portable. Le détail dans le journal de 7h30. Et puis les députés vont se prononcer aujourd'hui sur la proposition de loi LREM de lutte contre la haine sur Internet. Un texte controversé qui contraint les plateformes à retirer tout propos haineux en 24 heures.
France Inter, 7h07, la suite du journal. Agnès Soubiran, la crise du nucléaire iranien. Agnès, Paris envoie un émissaire à Téhéran.
Pour œuvrer à une désescalade, selon les mots de l'Élysée, Emmanuel Macron s'est de nouveau entretenu par téléphone hier soir avec Donald Trump, alors que l'Iran a commencé à augmenter son degré d'enrichissement à un taux supérieur à celui prévu par l'accord de 2015. C'est donc Emmanuel Bonne, le conseiller du président français, qui est envoyé aujourd'hui et demain à Téhéran pour jouer les intermédiaires, Christian Chenoux.
Le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron est attendu de pied ferme à Téhéran. La décision des Iraniens de reprendre l'enrichissement d'uranium à des seuils prohibés montre qu'ils sont capables de passer des menaces aux actes sans pour autant aller jusqu'à sortir de l'accord de Vienne. À l'Élysée, on fait remarquer que ces mesures sont très calibrées, autrement dit que Téhéran ne ferme pas forcément la porte à des négociations comme nous l'a confié en privé un diplomate iranien. Emmanuel Bonne, le sherpa du président, arrive avec pour mission de poser les fils d'une désescalade. Dans leur face-à-face avec l'Amérique de Trump, les Iraniens ont aussi besoin d'intermédiaires pour briser leur isolement diplomatique. Mais ils ont déjà prévenu, ils ne se contenteront pas de promesses. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères l'a répété avant la venue d'Emmanuel Bonne. Des gestes doivent être faits immédiatement avant le 15 juillet, comme l'a indiqué le président Macron. L'Iran attend notamment la mise en place de crédits dans le cadre d'INSTEX, le mécanisme commercial avec l'Europe, pour contourner l'embargo américain.
En Grande-Bretagne, l'entourage de Boris Johnson est suspecté d'avoir fait fuiter les télégrammes de l'ambassadeur britannique à Washington, télégrammes qui ont provoqué la fureur de Donald Trump et qui pourraient discréditer le chef de la diplomatie britannique Jeremy Hunt, concurrent de Boris Johnson dans la course à la succession de Theresa May. Pierre Aski reviendra dans sa chronique à 8h15. Et puis le projet de loi sur les extraditions vers la Chine est mort, c'est l'expression employée ce matin par la chef du gouvernement de Hong Kong, qui ne va pas jusqu'à annoncer le retrait pur et simple du texte, comme le réclament les protestataires qui promettent donc de redescendre dans la rue.
Et si vous partez en vacances cet été sur les plages de Gironde, n'oubliez pas de passer dans les postes de secours pour demander un petit bracelet.
Petit bracelet qui se révélera fort utile lorsque votre petit dernier aura disparu de votre champ de vision. Il suffit d'un moment d'hésitation d'inattention. L'an dernier, 7000 bracelets ont été distribués. Dessus sont inscrits tout simplement le nom de l'enfant et le numéro de téléphone des parents. Et ça marche, Stéphanie Skok.
À peine le dos tourné et le petit dernier s'est fait la malle derrière un ballon. Masqué par les parasols et la foule, les parents n'arrivent plus à le localiser. C'est le scénario classique, un sujet d'angoisse. Le fugueur se retrouve souvent au poste de secours et il faut parfois de longues minutes pour retrouver sa famille. Ce bracelet en plastique permet donc de faciliter les retrouvailles. Pauline Bourvis, responsable de l'opération chez Groupama.
C'est vrai que c'est toujours un nombre d'heures important de gagner pour les nageurs sauveteurs. Parce qu'en fait, à la base, ce dispositif, il a été conçu pour eux. Puisque le travail des nageurs sauveteurs, c'est de surveiller les plages, surveiller les baignades et pas forcément faire les nounous.
Ce bracelet va donc rassurer les parents, mais pour autant, ils ne doivent pas relâcher leur surveillance, explique cette maman.
C'est très très bien. Après, effectivement, ça ne doit pas déresponsabiliser les parents de la surveillance de leurs enfants. Quand on va à la plage avec ses enfants, il faut toujours garder un œil sur eux. J'ai deux jumeaux qui ont 21 mois, qui sont des bolides, donc effectivement, il faut être très très vigilant puisque on les lâche du regard d'une minute et après on ne les voit plus.
Depuis sa mise en place sur les plages de Gironde en 2014, le dispositif des bracelets a permis de retrouver une centaine d'enfants. Ils sont disponibles dans tous les postes de secours du littoral.
Et un numéro de téléphone peut-être pour retrouver Neymar qui ne s'est pas présenté à l'entraînement du PSG hier. Le torchon brûle depuis plusieurs semaines entre la star brésilienne et le club parisien. Explication dans le journal de 8h. Il n'y a plus de Français à Wimbledon. Hugo Humbert et Benoît Paire ont été éliminés en 8e de finale hier. Place aujourd'hui au quart de finale dames. Serena Williams jouera notamment contre sa compatriote Alison Risk et la roumaine Simona Halep qui a sorti hier la jeune Cory Goff affrontera la chinoise Shei Zhang.
Un Français en jaune dans le Tour de France.
5 ans que la France attendait de revoir un tricolore arborer ce maillot de leader. Exploit réalisé par Julien Alaphilippe, l'Auvergnat, auteur d'une très belle attaque en solitaire dans l'avant-dernière montée vers Épernay pour remporter une superbe victoire d'étape et donc s'emparer du maillot jaune. Julien Alaphilippe qui a définitivement conquis le cœur des supporters. Fanny Le Chevestrier.
Au milieu des cris dès que Julien Alaphilippe pointe le bout de son nez, tout de jaune vêtu, il y a cette image qui en dit bien plus que des mots. Celle de Raymond Poulidor, 83 ans, l'un des grands champions du XXe siècle, s'avançant timidement pour prendre une photo aux côtés du nouveau maillot jaune, fan parmi les fans de son panache.
C'est un symbole national.
C'est un coureur qui se prend pas la tête en dehors des courses. C'est un gars qui a du panache. C'est un mec qui fait vivre les courses, quoi.
Il représente un peu un vent frais dans le cyclisme.
Il donne tout.
Pas peur d'attaquer. Un bonheur de le suivre.
Mais ce qui plaît encore plus chez l'homme à la barbichette de D'Artagnan, ajoute Céline et Christine, c'est son côté simple, proche de monsieur et madame tout le monde.
Même s'il est crevé, il oublie juste de se reposer. Il va prendre le temps avec tout le monde.
C'est mon coup de cœur. Ah, moi, tantôt, j'étais là, les loulous, 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 sans sourire et tout. Je disais loulou, les gens me regardaient, mais c'était pas grave.
Julien Alaphilippe, alias Loulou, son surnom, touché par ces marques d'affection.
Dans chaque village, chaque ville qu'on passe, j'entends mon prénom. Ça me touche beaucoup. Je suis content de donner du bonheur aux gens.
Hier soir, d'ailleurs, près de 2 heures après avoir franchi la ligne d'arrivée, Julien Alaphilippe était encore en train de signer des autographes tout sourire au sommet de la bosse qui l'a fait roi.
Et l'objectif maintenant, c'est de conserver ce maillot jaune. 4e étape du Tour de France, 213 km et demi entre Reims et Nancy.
C'était Agnès Soubiran pour le journal sur France Inter.